Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au programme en français de ce jeudi 22 janvier sur SBS Audio. Dans cette édition, nous allons parler de l'économie américaine et des droits de douane, ce un an après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Nous irons également à la rencontre de Sébastien Fenot de Care Vanuatu, une organisation qui vient de décrocher un prix prestigieux de l'habitation. Nous reviendrons également sur l'épopée des frères Campos au Dakar, malgré des déboires mécaniques. Vous êtes en compagnie cet après-midi de Bertrand Tunganami. Et sans plus tarder, l'actualité. Au sommaire de cette édition, en politique australienne, la coalition s'est scindée suite aux dissensions sur les lois contre les discours haineux. Donald Trump revient sur sa décision d'imposer des taxes à l'Europe à partir de février, saluant un accord sur le Groenland. Et fracture du couple franco-allemand sur fond du blocage de l'accord Union européenne-Mercosur. En politique australienne, la coalition du Parti libéral et des nationaux s'est une fois de plus officiellement dissoute. Après avoir démissionné en bloc du cabinet fantôme en solidarité avec trois collègues limogés pour avoir changé de camp sur les lois contre les discours haineux, le chef des nationaux, David Littleproud, affirme que la coalition a été contrainte à une position intenable qui ne peut plus durer. Madame Lay, la présidente de la coalition fédérale, a accepté hier la démission des trois membres des nationaux, mais avait refusé celle de huit autres, dont celle de M. Littleproud. Ce matin, ce dernier s'est adressé aux médias pour condamner la chef des libéraux, lui reprochant d'avoir ignoré les demandes de son parti concernant la possibilité de contribuer équitablement aux amendements aux lois sur les discours haineux adoptés cette semaine. M. Littleproud affirme que trois sénateurs des nationaux ont été invités à démissionner de leurs fonctions parlementaires hier pour avoir voté contre le projet de loi.
But I sent a letter advising Susan Lee that if she accepted those resignations, because it would not be appropriate to, considering the circumstances we had, then our entire ministry will resign. We're not offering a resignation for her to accept or not. We are tendering our resignation.
Le bureau de M. Littleproud a informé la presse qu'il ne donnerait aucune autre interview aujourd'hui par respect pour la journée nationale de deuil en hommage aux victimes de l'attentat terroriste de Bondi. Et aujourd'hui, les drapeaux sont en berne tandis que le pays pleure les 15 victimes de l'attentat terroriste de Bondi au mois de décembre dernier. Le public est invité à observer une minute de silence à 19h01 ce soir, heure locale de Canberra. Le premier ministre Anthony Albanese a adressé un message de deuil et d'espoir alors que les commémorations débutent partout à travers le pays. Le gouvernement a officiellement déclaré ce jeudi 22 janvier journée nationale de deuil.
It is a solemn opportunity for every Australian to stand with the Jewish community and remember the 15 lives stolen in this deadly attack.
Le président américain Donald Trump a renoncé à imposer des droits de douane aux pays européens qui bloquent son projet d'annexion du Groenland, un territoire danois. Monsieur Trump a annoncé sur le réseau social Truth Social avoir conclu un accord cadre avec le Groenland et la région arctique et sur la base de cet accord, renoncer aux sanctions commerciales initialement prévues pour février. S'adressant aux dirigeants mondiaux lors du Forum économique mondial de Davos, M. Trump a déclaré être prêt à payer le prix fort pour ce territoire. Comme l'explique Nicolas Roca pour RFI, au grand soulagement de ses interlocuteurs européens, le président américain a également exclu le recours à la force, mais reste déterminé à acquérir le Groenland.
Le concept d'un accord censé durer pour toujours. Dans son interview à la chaîne américaine CNBC, le président américain est resté extrêmement flou sur le contenu d'un plan qui lui a fait effectuer une marche arrière éclair. Alors qu'il avait évoqué l'achat du Groenland dans son discours à Davos, sur son réseau social, il a ensuite annoncé renoncer à imposer de nouveaux droits de douane censés aller jusqu'à 25% pour 8 pays européens punis pour leur soutien au Danemark. Ce cadre d'accord concerne le Groenland et toute la région arctique, assure Donald Trump, une zone stratégique où il souhaite contrer la menace russe et chinoise. Même son de cloche du côté de l'OTAN qui assure que les discussions vont porter sur la sécurité de l'Arctique via les efforts collectifs des alliés. Rien de concret donc, mais il devrait aussi être question du système de défense antimissile du Dôme d'Or, selon la publication du président américain. Ce vaste projet de Donald Trump qui vise à intercepter les missiles balistiques intercontinentaux est selon lui impossible sans le Groenland. Plusieurs pays européens ont salué l'annonce et l'Union européenne a affirmé qu'elle maintiendrait sa réunion exceptionnelle prévue à Bruxelles ce jeudi.
Au Moyen-Orient, l'agence de la défense civile de Gaza affirme qu'une frappe aérienne a tué 11 civils, dont 3 journalistes à Gaza. L'armée israélienne déclare avoir abattu un drone affilié au Hamas qui menaçait ses troupes sans toutefois préciser comment elle a identifié les suspects présumés. Entre 200 et 300 journalistes palestiniens ont été tués à Gaza depuis octobre 2023. Explication Alice Roissard pour RFI.
Anas Renaim, Abdul Shat et Mohamed Keshta étaient 3 photojournalistes gazaouis. Ils filmaient un camp de déplacés nouvellement établi au centre de la bande de Gaza, près du corridor de Netzarim. De retour dans leur véhicule, une frappe israélienne les vise. Ils sont tous les 3 tués sur le coup. Des vidéos sur les réseaux sociaux attestent de l'état de leur voiture. Un véhicule calciné, bombardé, de la fumée qui s'échappe encore de l'épave. Sur une autre vidéo, on voit leurs collègues, proches ou amis se recueillir sur leurs dépouilles. D'après Mohamed Mansour, le porte-parole du comité qui supervise l'aide égyptienne de Gaza, pour laquelle les journalistes travaillaient, l'attaque israélienne a eu lieu à 5 km du territoire contrôlé par Israël. Il assure également que le véhicule était connu des militaires israéliens comme appartenant au comité égyptien. Israël justifie sa frappe en précisant que les journalistes utilisaient un drone pour recueillir des renseignements sur les forces armées, sans le prouver. En tout cas, Gaza est aujourd'hui l'endroit le plus dangereux au monde pour les journalistes.
On signale que les frappes israéliennes sur Gaza sont intervenues après que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ait confirmé avoir accepté l'invitation du président américain Donald Trump à rejoindre le Conseil de la paix. Cette initiative, conçue pour mettre fin au conflit dans l'enclave, pourrait être étendue à d'autres conflits. Le porte-parole adjoint de l'ONU, Farah Haq, a déclaré ne pas craindre que le Conseil de la paix puisse remplacer l'ONU.
It's too early to tell what the Board of Peace will look like. One thing we are aware of is, of course, that the Security Council has endorsed the Board of Peace strictly for the work on Gaza. And, of course, we continue to abide by that resolution. What happens in the future, we'll have to see.
La Commission européenne dit regretter la décision des eurodéputés qui ont voté hier en faveur d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour vérifier la légalité de l'accord commercial conclu entre l'Union européenne et les pays du Mercosur dans un vote très serré par 334 voix contre 324 et 11 abstentions. Ce vote bloque provisoirement l'entrée en vigueur le temps que la Cour rende sa décision. Au premier rang des anti-Mercosur du PPE, la délégation française de François-Xavier Bellamy, renforcée la veille du scrutin par la présence de Laurent Wauquiez aux côtés des agriculteurs mobilisés devant le Parlement européen à Strasbourg. Cri de joie au Parlement européen où des centaines d'agriculteurs opposés à l'accord du Mercosur étaient réunis. Écoutons Morgan Audit de la Confédération paysanne.
En démocratie, il faut que le Parlement vote avant qu'un texte soit appliqué. Et donc si potentiellement le Parlement européen va voter contre cet accord ne peut pas exister. On va continuer cette bataille. Pour nous, on n'arrêtera pas de se mobiliser avant l'abandon total de cet accord de libre-échange. Il faut arrêter avec ces accords de libre-échange. Nous voulons la souveraineté alimentaire partout, pour les Européens, mais aussi pour l'Amérique latine.
Le vote contre l'accord du Mercosur révèle une fracture béante au cœur du couple franco-allemand. Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, a salué une décision cohérente avec la position de la France. En revanche, à Berlin, le chancelier Friedrich Merz a qualifié la décision de regrettable, dénonçant un vote qui méconnaît la situation géopolitique. Et retour en Australie, où le taux de chômage a diminué de 0,1 point de pourcentage entre novembre et décembre 2025. Les données publiées ce matin indiquent un taux de chômage de 4,2%. Le taux d'activité, le pourcentage d'Australiens occupant un emploi, est resté stable à 66,7%. Ainsi, 5488 emplois à temps plein ont été créés. Et entre-temps, 10 400 personnes ont décroché un emploi à temps partiel. Les chiffres du chômage publiés par le Bureau australien des statistiques, ABS, constituent un indicateur clé de l'évolution de l'inflation et pourraient influencer la décision de la Banque de réserve australienne quant à une éventuelle hausse des taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion le 3 février prochain. Et la police de Nouvelle-Galles du Sud met en garde contre un risque accru pour les automobilistes sur les routes durant le long week-end de la fête nationale australienne. Les retraits de points de permis seront doublés et les amendes majorées pour les infractions au code de la route du vendredi 23 janvier au mardi 27 inclus, le lundi étant jour férié. Durant cette même période, les limitations de vitesse aux abords des écoles resteront en vigueur. L'année dernière, 356 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route en Nouvelle-Galles du Sud. Et les principaux facteurs identifiés étaient l'excès de vitesse, la conduite sous l'influence de l'alcool ou des stupéfiants et la fatigue.
By making sure that you follow the speed limits, not only over the double demerits points weekend, but rolling straight into that first term of school for the year, we're keeping our most vulnerable road users safe. The take-home message is simple. Plan your trip, listen to your body, make safe choices.
Et voici la météo pour votre bulletin de ce jeudi 22 janvier. Perth, un grand soleil et 32 degrés. Adélaïde, temps ensoleillé, 27 degrés. Melbourne, une ou deux averses et 20 degrés. Hobart, quelques ondées et 18 degrés. Canberra, ciel partiellement nuageux, 26 degrés. Wollongong, quelques averses et 22 degrés. Sydney, le vent va se lever sur un ciel partiellement nuageux et 26 degrés. Newcastle, le ciel se couvre progressivement et 27 degrés. Brisbane, alternance de soleil et de nuages, 34 degrés. Cairns, ciel partiellement nuageux et 32 degrés. Tandis qu'à Darwin, on signale quelques averses et un risque d'orage, un maximum de 31 degrés. Fin de cette édition. Après une courte pause, on retrouve Jean-Noël Ducasse dans l'actualité sportive.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Le journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord l'Open d'Australie et sa passe pour l'Australien demi-nord hier contre Medjedovic, le Serbe, en 4 manches et demain, il jouera contre l'Américain Frances Tiafoe. Le Français Corentin Moutet jouera demain contre Alcaraz, l'Espagnol, après sa victoire contre l'Américain Michael Zhang, qui a dû abandonner pour blessure. On écoute Corentin Moutet.
Vraiment, du défi à relever, qui est différent. Là, Alcaraz, le défi, c'est que c'est un super bon joueur, que même s'il est plus jeune que moi, il a gagné plein de titres. Enfin, c'est indiscutable que c'est un des meilleurs joueurs du moment. Donc, il va être tennistique, le défi. Mais tous les jours, il y a vraiment des défis différents. Et je pense pas qu'il y ait un jour qui soit plus facile que l'autre. Je pense pas qu'aujourd'hui, ça soit plus facile que ce qui m'attend. Donc voilà, je suis juste curieux et content d'avoir un nouveau défi à relever et de voir tout le travail que j'ai fait avec mon équipe va donner face à un des meilleurs joueurs du monde. Et c'est pour ça aussi que je suis content de jouer contre les meilleurs à chaque fois. C'est qu'on peut on peut voir ce qui nous reste à travailler. Ils arrivent vraiment à éclairer nos zones les plus faibles et c'est un super apprentissage pour la suite. Comme je disais, vraiment chaque match est comme ça, que le mec soit mieux classé, moins bien classé. J'essaie de voir ce que l'adversaire peut m'apprendre sur moi.
Alexandre Müller a été éliminé par l'Allemand Alexandre Zverev en 4 manches. Gaël Monfils, le Français qui a été éliminé mardi, parle maintenant de la suite de sa dernière année sur le circuit.
J'essaie de faire le maximum, en vrai, de prendre vraiment match par match, d'être le plus positif possible, et surtout le plus franc avec moi, tu vois. C'est surtout ça, c'est de pas se mentir, tu vois. Et généralement, se mentir, c'est de se dire ceci, cela, non, tu joues moins bien, t'es nul, tu vois. Il y a pas de souci, il y a pas de honte, tu vois. Et au contraire, c'est-à-dire qu'il y a de la marge pour progresser, donc repartir au travail, tu vois, repartir au travail, bien se soigner entre guillemets, je vais essayer de pousser mon corps encore un petit peu plus. Là, ça va être une période un peu mieux quand même, c'est des matchs en 3-7, donc c'est bien, tu vois. Bon, il fera chaud quand même, mais essayer simplement de penser positif. C'était pas bon aujourd'hui, mais on espère que ce sera meilleur demain et on repart au travail. Et comme tu dis, j'oublie pas quand même, c'est ma dernière année et tu vois, et c'est pas grave. Et vraiment, tu vois, je l'ai partagé avec mes fans, j'ai dit, et c'est pas grave en fait, j'en suis plus là en fait, j'en suis plus à compter, tu vois, et c'est pas grave. Franchement, j'ai kiffé, j'ai vu 3h50, je sais pas combien, j'ai perdu. J'ai donné le maximum, tu vois, j'ai un jeune, il a mieux joué que moi, c'était cool pour lui, il a gagné son premier match en Australie, il a une belle histoire, bravo à lui, tu vois, et moi j'ai kiffé, tu vois, et personne ne m'empêchera d'avoir kiffé ce moment-là, c'était mon moment, j'ai kiffé, et je suis content.
Ce jeudi, un match à ne pas rater, c'est le Suisse Stan Wawrinka, le Suisse qui joue sa dernière saison sur le circuit. Eh bien, il jouera contre le Français Arthur Guéa, qui est classé 198e au classement ATP. Et puis l'Australien Dane Sweeney, 182e mondial, qui a battu Gaël Monfils l'autre jour, joue en ce moment contre l'Américain Ben Shelton, 7e mondial. La Française Varvara Grasheva jouera ce soir contre Elena Rybakina, la Kazakh, sur la Rod Laver Stadium, après le match entre l'Italien Sinner et l'Australien Duckworth. On passe au foot, la Ligue des Champions en phase de Ligue, début de la 7e journée mardi. Eh bien, le Paris Saint-Germain a perdu face au Sporting Portugal et le Real Madrid a gagné 6-1 contre Monaco. Andréan Ménard et Olivier Pron pour Radio France Internationale.
Le PSG piégé.
Comme un bleu, ballot pour un tenant du titre. Trop maladroit, le PSG pour espérer mieux. Match ultra dominé, mais défaite 2-1 à l'arrivée à Lisbonne face au Sporting Portugal. Scénario déjà vu pour le milieu de terrain Vitinha au micro de nos confrères de Canal+.
Si on peut sembler expliquer, on a contrôlé le match, on avait trop d'occasions, on n'a pas marqué. Ça, c'est un film qu'on a déjà vu beaucoup de fois. C'est pas manque d'engagement, mais manque de concentration, je vais dire. On a pris deux buts et ça nous a coûté la défaite.
Ben voilà, c'est ça, quand on prend deux buts, c'est moins facile pour gagner après. Paris 5e qui devra assurer sa qualification dans le top 8 dans 8 jours face à Newcastle.
Ce sera encore plus compliqué, Olivier, pour Monaco qui a coulé à Madrid.
En perdition, les hommes du Rocher face au Real, un Real au mode tennis. Hein. 6-1, doublé de Mbappé, 11 buts en 6 matchs pour lui dans la compétition. Un festival offensif mené aussi par Vinicius Junior. De retour après plusieurs semaines d'absence pour blessure, l'Argentin Franco Mastandrea Tuono a lui aussi marqué et il en a profité pour rendre un bel hommage au Brésilien malmené dernièrement par le public de Santiago Bernabéu.
Je suis très content pour le but parce que l'équipe a montré de la personnalité. On en avait besoin. On n'est pas des idiots. On sait ce qu'on a fait de mal. Mais on sait aussi qu'on est très bien préparé. C'est à nous d'assumer la situation. Et sur ce point, Arbeloa et son staff nous ont beaucoup aidés. Je pense que c'est à nous de changer cette mentalité pour montrer qui nous sommes vraiment. Ce qui me rend le plus heureux ce soir, c'est de voir Vini comme ça. Franchement, ça va beaucoup nous aider à atteindre les objectifs importants qui nous attendent. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde et le voir dans cette forme-là, pour nous, c'est un énorme plus.
L'Argentin Franco Mastantuono au micro de... Comment s'appelle-t-il déjà?
Je peux pas vous aider.
Pierre Chaperon. Ah bah donc, voilà. Hop, ça revient comme ça. Le Real, deuxième de cette poule unique, 2 points devant le PSG. 6 de moins qu'Arsenal. Les Gunners sont remportés à l'Inter Milan, leur 7e succès en autant de matchs. Monaco, de son côté, 20e, jouera sa qualification dans 8 jours face à la Juventus Turin.
Hier, l'OM a joué contre Liverpool et Marseille a été battu 3-0. Victor Misistrano pour RFI.
Ah oui, occasion complètement manquée. Le match de gala a tourné à la déroute. 3-0 pour Liverpool. Les Marseillais avaient pourtant réalisé une entame prometteuse dans une ambiance exceptionnelle, un stade plein et un public au rendez-vous. Mais l'atmosphère a été refroidie juste avant la fin de la première période. Sur la dernière action, le milieu hongrois Szoboszlai a ouvert le score sur coup franc. Son ballon est passé sous le mur de l'OM. Les Olympiens ont entamé la seconde mi-temps avec d'autres intentions. Le rythme s'est accéléré d'un but à l'autre, mais à ce jeu, ils se sont montré plus fébrile, en grande difficulté même face aux vagues des Reds. Le portier Rouli a détourné un ballon de Frimpong dans ses propres filets pour le 2-0 à la 72e. L'ambiance est alors un petit peu retombée. On a compris que cet Olympique de Marseille était largement inférieur ce soir. L'entrée de Pierre-Emerick Aubameyang n'y a rien changé. Dans les tout derniers instants, le néerlandais Cody Gakpo a donc alourdi le score d'une frappe bien placée. Le score est lourd, 3-0, mais presque logique, car l'attaquant Hugo Ekitike et Liverpool ont eu d'autres occasions franches. L'OM va devoir digérer cette déception pour aller chercher la qualification en Belgique. Dernier match contre Bruges, mercredi prochain.
Les Socceroos joueront contre le Cameroun et Curaçao en mars, en préparation de la Coupe du Monde de la FIFA. L'Australie accueillera le Cameroun, quintuple champion d'Afrique des Nations, à Sydney le 27 mars. Et Curaçao, pays insulaire néerlandais des Caraïbes, à Melbourne le 31 mars prochain. Le sélectionneur des Socceroos, Tony Popovich, affirme que jouer contre des adversaires de différentes confédérations est la préparation idéale pour la Coupe du Monde. La directrice générale par intérim de Football Australia, Heather Garioch, déclare qu'il s'agit d'un moment important pour le foot australien.
We can see the quality of our Socceroos, whether it's the youngsters coming through or the established Socceroos led by Tony Popovich, who is a former Socceroo, who knows what it takes to play at a World Cup and for this to be his first World Cup. The support of our fans, we know Australians love sport, but more importantly love our Socceroos and love our Matildas as well. And so having send-off games like these are super important.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Vous écoutez Radio SBS et on continue l'émission dans quelques instants. Restez avec nous.
À présent, on va parler économie avec les droits de douane Europe, Mexique, États-Unis. À l'heure à l'air Donald Trump.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Rubrique économique aujourd'hui dans notre émission. Et un an tout juste, hein, il y a quelques jours, après le retour officiel de Donald Trump à la Maison Blanche, eh bien la politique commerciale américaine, on le sait, continue de bouleverser les équilibres mondiaux. Et au cœur de tout ça, eh bien le Mexique, très dépendant de son voisin du Nord et directement visé par les droits de douane américains, semblait particulièrement exposé. Eh bien pourtant, 12 mois plus tard, le bilan économique est loin d'être aussi sombre qu'on l'aurait pu l'anticiper.
Oui, pour comprendre un chiffre, plus de 80% des exportations mexicaines partent vers les États-Unis. Automobiles, pièces détachées, électroniques, électroménagers, équipements industriels, le Mexique est devenu l'atelier industriel de l'Amérique du Nord, à tel point que depuis 3 ans maintenant, depuis 2023, le pays est devenu le premier partenaire commercial des États-Unis, devant la Chine. La réciproque est d'autant plus vrai et d'autant plus compliqué pour le Mexique. Le pays dépend énormément de son voisin du Nord et la croissance repose principalement sur un modèle d'assemblage avec peu de valeur ajoutée locale. En résumé, qu'en Washington tous, c'est Mexico qui est grippé.
Donc quand Donald Trump a appliqué ses droits de douane sur le Mexique, ça aurait dû, sur le papier, être un choc majeur pour le pays.
Exactement, car quand on parle de droits de douane de 25% sur certaines exportations mexicaines, hein, jusqu'à 50% sur l'acier et sur l'aluminium. Alors Donald Trump menace aussi l'ACEOM, l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Et quand on repense au poids des exportations du Mexique qu'on vient d'évoquer vers les entreprises américaines, on se dit que ces mesures auraient logiquement dû provoquer une récession mexicaine. Mais voilà, un an plus tard, la réalité est bien plus nuancée, car ces exportations, précisément, ont continué d'augmenter l'année passée.
Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe?
Eh bien, pour ça, il faut dézoomer la carte et regarder le planisphère dans son intégralité. Ça n'a échappé à personne. Donald Trump mène une guerre commerciale contre le monde entier et surtout contre la Chine. En moyenne, les droits de douane sont de 5% pour le Mexique, 40% pour Pékin. Les produits chinois sont donc bien plus taxés. C'est donc finalement du bon sens. Quand une entreprise américaine cherche un fournisseur alternatif à la Chine, elle se tourne vers le Mexique.
On peut dire, Stéphane, que le Mexique est un gagnant relatif de la guerre commerciale.
Ah oui, hein, et la stratégie est bien en place, car plutôt que de produire à l'autre bout du monde, les entreprises produisent au plus près du marché américain et si possible dans un pays peu taxé. Le Mexique est ainsi la solution et attire des industriels américains mais aussi asiatiques et européens qui veulent sécuriser leur chaîne d'approvisionnement. Mais cette solution, attention, elle n'est pas garantie dans la durée. Car si Donald Trump change les règles, comme par exemple augmenter brutalement les droits de douane, ça peut tout changer.
Et donc, pour la présidente mexicaine, l'idée, c'est de ne pas affronter son homologue américain pour rester sur ce statu quo.
Tout à fait. Claudia Sheinbaum a désamorcé, disons-le, hein, les menaces américaines en envoyant des soldats à la frontière, en luttant contre le trafic de fentanyl et même en imposant des droits de douane à la Chine. Et ça fonctionne, on vient de le voir. Alors à court terme, le Mexique résiste et exporte davantage car il profite finalement du recul chinois. Sur le moyen terme, ce qui va être intéressant à observer, c'est l'amplification ou pas de la dépendance du pays aux États-Unis. Car mine de rien, le Mexique reste aujourd'hui sous pression.
Et deuxième sujet, toujours sur le cas de Donald Trump et la coercition économique. La tension, vous le savez, monte entre les États-Unis et l'Union européenne. On en a parlé toute cette semaine. Et en cause, bien sûr, des menaces de frais de douane brandies par Donald Trump pour contraindre plusieurs pays européens à accepter l'achat du Groenland par Washington. Face à ce chantage assumé, Bruxelles envisage pour la première fois d'utiliser son arme commerciale la plus puissante.
Exactement. Et la menace de Donald Trump pour faire plier les Européens sur le sujet, elle est claire. 10% de droits de douane dès le 1er février, 25% à partir de juin. Ces surtaxes seraient pour le moment appliquées sur 8 pays du continent, dont la France, l'Allemagne ou encore la Suède. Ce que l'on comprend en fait, Andréane, c'est qu'on n'est plus dans la négociation commerciale classique. Le rapport de force, il est assumé avec une logique propre à Donald Trump, le tarif douanier comme levier politique.
Et évidemment, eh bien, ça n'est pas sans conséquences économiques.
Voilà, ces droits de douane auraient des effets immédiats pour l'Europe, puisque de nombreux secteurs continuent d'exporter aux États-Unis. On peut penser à l'automobile, à l'agroalimentaire ou encore au textile. Résultat, pour les entreprises européennes, ça impliquerait une perte de compétitivité, ça écraserait leurs marges. Leurs investissements seraient d'ailleurs encore un peu plus retardés parce qu'on le rappelle, l'incertitude, ça freine cette démarche. Mais le piège pour Washington, c'est que ça toucherait aussi les entreprises américaines, car oui, les chaînes de valeur sont imbriquées, des composants européens sont essentiels à l'industrie américaine.
Donc Bruxelles pourrait répondre par un mot, coercition.
Alors dans les grandes lignes, la coercition économique, c'est quand un pays menace ou applique des mesures commerciales pour forcer un autre État à changer une décision souveraine. Autrement dit, le message de la Commission européenne aux États-Unis, c'est trop, ne touchez pas au Groenland, sinon vous le paierez économiquement. Cet outil, il existe donc dans les textes européens, c'est important, il n'a pour le moment jamais été utilisé. Pour faire simple, il permet à l'UE de riposter de manière graduée et ciblée parmi les mesures, la restriction à l'accès au marché européen, le blocage de certains investissements étrangers, donc là les Américains, la limitation des services, y compris numériques. Pour résumer, Andréane, toucher là où ça fait mal, notamment pour les grands groupes des États-Unis très dépendants au marché européen.
Alors d'où les surnoms qu'on peut lire partout dans la presse ce matin. On parle de bazooka ou d'armes nucléaires économiques.
Oui, mais il faut prendre un peu de recul car c'est un outil de dernier recours. Pensez d'abord comme dissuasif, mais le problème de la dissuasion, c'est tant qu'on n'a pas utilisé l'objet en question, ça ne dissuade pas beaucoup. Alors en parallèle, Bruxelles envisage une autre riposte, plus classique disons, réactiver des droits de douane sur 93 milliards d'euros de produits américains. Cette liste, elle existe déjà, et ironie du sort, elle a d'ailleurs été suspendue après un accord commercial conclu l'été dernier avec Washington. En tout état de cause, Andréane, l'enjeu est surtout côté européen. Est-ce que les 27 sont prêts à utiliser la puissance économique du continent pour précisément défendre leur souveraineté ? Car le compromis, la retenue et le multilatéralisme, ce sont des concepts peu compatibles avec la politique de Donald Trump.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio, du lundi au vendredi, à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
C'était Out of Time, Man, une chanson de Manu Fao. Présent, on va retrouver le directeur de CARE Vanuatu qui va nous parler d'un prix prestigieux que l'organisation vient de remporter, un prix prestigieux, un prix de l'habitation. À tout de suite.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Sébastien Fesneau, qui est le directeur de CARE Vanuatu. Bonjour et bienvenue sur les ondes en Australie.
Bonjour et merci de votre invitation.
On va parler de CARE Vanuatu, qui a reçu le prix mondial de l'habitat, une médaille de bronze.
Ça a été confirmé hier soir lors de l'annonce officielle, lors de la cérémonie qui était organisée par World Habitat.
Donc c'était à Londres et c'est dans le cadre de l'initiative de logement résilient face au changement climatique. Parlez-nous un petit peu des raisons de cette récompense.
Alors en fait c'est un concours annuel qui est lancé par World Habitat et auquel CARE a participé pour proposer un projet qui s'appelle Build Back Safer. On pourrait traduire par reconstruire mieux et sûr dans le cadre d'une réponse en 2023. Kevin et Judy, qui ont affecté le Vanuatu, et pour lequel CARE a proposé une approche un petit peu innovante pour la reconstruction des abris face à ces cyclones.
Alors comment est-ce que le passage de ces cyclones tropicaux, Judy et Kevin, en 2023, ont affecté le Vanuatu ? Il y a eu, j'imagine, une grosse destruction des récoltes, des routes, des maisons.
Les cyclones tropicaux sont des phénomènes annuels au Vanuatu, qui est un des pays les plus à risque au monde en termes d'aléas climatiques et naturels, en termes de cyclones, tremblements de terre, éruptions volcaniques. Et ce genre d'événements donc, qui se produisent en termes de cyclones chaque année peuvent avoir un impact destructeur, notamment dans les communautés rurales.
Quelles ont été un petit peu les actions menées par la communauté locale ?
Alors les actions en fait sont menées à différents titres puisque CARE est présent au Vanuatu depuis 2008 et en fait on accompagne les communautés et les autorités par des actions de préparation et réponse aux urgences. Donc il y a souvent des mécanismes qui sont faits en termes d'évacuation, de protection au moment de ces événements. Mais c'est vrai que pour les réponses en termes de reconstruction des abris ou des maisons sur des zones qui sont isolées, là on parle par exemple de la province de Tafea qui se trouve dans le sud de l'archipel, hein, qui comprend à peu près 80 îles, les actions de reconstruction peuvent prendre du temps. Et donc on a plutôt décidé d'accompagner ces communautés pour les aider en fait à se redresser, à reconstruire par eux-mêmes, plutôt par des actions de formation, d'accompagnement en termes d'appui technique, et aussi en incluant notamment les femmes qui sont souvent amenées à prendre des rôles de chef de ménage pour un certain nombre de raisons, à prendre beaucoup plus de leadership pour être acteur principal de leur reconstruction, de leur recouvrement. Tout ça est fait en coordination, bien sûr, avec les différentes autorités, les parties prenantes dans le cadre de ces actions.
Et d'après ce que j'ai lu aussi, dans les communautés insulaires rurales, il y aurait un taux élevé de violence domestique, c'est ça ?
Alors, ça fait partie du contexte. Effectivement, le Vanuatu est sujet à beaucoup de violences domestiques et sexuelles. On peut considérer qu'il y a une fille sur trois qui va être abusée sexuellement avant 15 ans. On avait à peu près 60% de prévalence de violences sexuelles sur l'archipel. Donc, ça fait partie du contexte. Donc, ça fait partie des actions que nous menons au niveau de CARE pour appuyer les femmes et pour restaurer un dialogue et transformer les relations entre les hommes et les femmes. Les femmes sont aussi souvent assez exclues des opportunités en termes d'éducation ou professionnelle, notamment dues aux migrations masculines dans les pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Et il y a beaucoup de foyers monoparentaux féminins qui en résulte de par ces deux contextes. Et donc, ce qui amène les femmes à jouer un rôle plus important, notamment dans des secteurs où traditionnellement sont plutôt masculins, comme justement les abris, le shelter ou l'agriculture.
Parlez un petit peu de la présence de CARE au Vanuatu. D'après ce que je comprends, ça date depuis plusieurs années maintenant.
Alors, nous sommes présents depuis 2008 au Vanuatu et dès le départ, nous avons focalisé nos actions et notre stratégie sur la réponse humanitaire et la résilience, mais également cette thématique de promouvoir une approche plus équitable entre les hommes et les femmes en termes de genre, en termes de relations et de transformer les relations et au cœur, je dirais, de notre mandat et de nos actions, et également qui se traduisent par des actions en termes de développement économique, de gouvernance, c'est-à-dire de travailler avec les autorités et les communautés. On est dans une zone qui est assez diverse, où on a une centaine de langages différents et vernaculaires au niveau du Vanuatu, des zones qui sont très isolées. Donc, c'est tout un contexte sur lequel nous travaillons depuis 2008. Et de manière intégrée, c'est-à-dire que la question des risques climatiques est intégrée dans toutes les actions que nous menons, de manière à ce que chaque élément se renforce un petit peu mutuellement dans les actions et les projets que nous menons.
Globalement, vous êtes satisfait, j'imagine, des principales réalisations de ce projet géré par CARE Vanuatu?
Nous sommes très honoré d'être récompensé pour ce travail, parce que c'est récompensé pour un projet que nous avons mené dans le cadre de ce cyclone, mais en fait il valide un engagement qui a été commencé en fait il y a une dizaine d'années avec la réponse à un autre cyclone, cyclone Pam, qui avait dévasté aussi le Vanuatu à l'époque, et qui valide aussi notre approche de centrer vraiment au niveau des communautés. C'est une approche aussi qui est très économique parce qu'en fait, avec peu de moyens, on peut faire beaucoup. Avec $100 environ qui ont été investis pour quelques intrants techniques, des outils et des formations. On a pu appuyer beaucoup de personnes. Au total, on a appuyé près de 9000 personnes dans le cadre de cette réponse. Et donc, c'est un petit peu l'opportunité d'avoir des actions économiques, mais aussi des actions qui intègrent ces dimensions de genre, de relations entre les hommes et les femmes, et d'apporter, je dirais, des éléments de transformation, d'évolution dans les dialogues hommes-femmes, dans un contexte où le Vanuatu restera affecté par ces aléas climatiques, mais nous pouvons collectivement changer l'approche que nous pouvons mener, travailler vraiment directement avec les communautés et les acteurs affectés, et avec des actions qui sont pertinentes et durables dans le temps, parce que cette approche nous permet aussi de faire école, et c'est quelque chose qu'on veut valider et capitaliser dans le cadre de cette récompense, pour promouvoir justement des approches économiques et qui permettent de faire d'une pierre plusieurs coups, si je puis dire.
Et pour les gens qui nous écoutent, s'ils ne le savent pas, c'est les 83 îles de l'archipel, d'après ce que je comprends, sont d'origine volcanique.
Alors, il y a un certain nombre de volcans qui sont actifs au Vanuatu, avec des cycles d'activité qui varient et on a apporté des réponses parfois où on a des événements où vous avez un cyclone qui va être combiné avec une éruption ou une activité volcanique. Donc on intègre en fait un peu une approche multirisque. On est aussi le Vanuatu était aussi sujet à un tremblement de terre en 2024, et donc c'est toute cette approche intégrée qui doit être prise en compte pour permettre aux communautés d'être résilientes. Et on utilise beaucoup le terme de résilience, mais on pourrait le définir simplement comme la capacité de faire face, de s'adapter, mais aussi de se transformer face à des crises et des chocs. Et un peu ce projet est une démonstration qu'on peut avoir des approches assez simples, pas simplistes, mais qui permettent d'avoir un impact durable et réplicable, notamment pour si une crise affectait d'autres zones de l'archipel du Vanuatu.
Et j'imagine que Care Vanuatu est en train de travailler sur d'autres projets pour 2026.
Alors, nous sommes déjà dans la période des cyclones, donc on invite aussi vos auditeurs, s'ils veulent nous aider à contribuer aux réponses, avec notamment ce type de réponse, avec peu, on peut faire beaucoup. Donc, vous pouvez regarder sur le site de Care Australie si vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, littéralement, dans le cadre des réponses. Ce que nous souhaitons aussi, c'est dans le cadre de cette récompense, c'est vraiment de capitaliser, de valider, d'institutionnaliser, vraiment de promouvoir ce type d'approche. Peut-être d'explorer des partenariats, notamment avec des acteurs du secteur privé dans le domaine justement de la reconstruction, qui pourraient être partenaires de ces réponses, parce que on montre vraiment que c'est des partenariats qui peuvent être très stratégiques et très très économiques, et donc ce sont des actions que nous allons mener effectivement dans le cadre de ce coup de projecteur sur le Vanuatu et sur ce type d'approche qui nous semble très stratégique, notamment dans un contexte où chacun sait qu'il y a eu énormément de coupes budgétaires au niveau mondial sur les réponses humanitaires et aussi de développement. Et donc, ça nous invite aussi à vraiment se focaliser sur des approches beaucoup plus économiques et stratégiques. Et celle-ci en fait partie. Et donc, ça va faire partie de notre approche pour vraiment promouvoir et inviter d'autres à adopter ce type d'approche également.
Merci à vous, Sébastien Fesneau, et je rappelle que vous êtes le directeur de Care Vanuatu. Merci d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS en Australie.
Merci à vous, merci de votre invitation.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
La nuit, je me venge.
Et c'était La Nuit, une chanson de Météor. Place à présent à un entretien avec les frères Campos suite à leur épopée fantastique au dernier Dakar.
Eh bien, les frères Campos, vous l'avez fait. On est ici à la ligne d'arrivée du Dakar. C'est la mer Rouge. Et il y a la R18 qui est là. Vous pouvez être satisfait quand même.
Oui, on va absorber, mais là, ça y est, c'est bon,
On a juste à monter la marche du podium, ça, il faudrait pas qu'on fasse une petite bêtise. Mais voilà, non, c'est bien. Enfin, ouais, il faut l'absorber, mais c'est très bien. Je suis très ravi. On l'a fait ensemble, c'est parfait. C'est nickel.
Elle est belle cette image. Voilà. Est-ce que ça veut dire que vous pensez aujourd'hui aux 2 ans, 3 ans de travail derrière?
Oui, j'y pense parce que on va ramener la voiture. On peut être jojo. C'est pas jojo, hein, quand même. Donc,
je pense que si on est là aujourd'hui, c'est grâce justement à ces 3 ans de travail. Parce que voilà, la voiture a été quand même bien préparée. Merci à Robert et Harley pour cette préparation durant 3 ans. Il y avait un mécanicien quand même hors pair qui a réussi à réparer toutes les petites bricoles qu'on a eues, les plus petites ou les plus grosses, parce qu'on en a eu une grosse aussi. Et voilà, sans Thierry, ça serait arrêté depuis longtemps. Donc voilà, c'est parfait.
C'est nickel.
Vous êtes surpris de l'engouement que les gens ont eu autour de vous? Il y a quand même, vous avez serré beaucoup de mains quand même. C'était un travail de Premier ministre presque.
Peut-être pas, non, mais nous on s'en rend pas compte, et puis on sait que c'est éphémère, et puis on s'en bat les...
Ouais, mais même si c'est éphémère, faut en profiter.
Oui, mais et demain le quotidien, il y a pas de souci, enfin voilà, donc c'est pas très grave.
Et une dernière question, une petite pensée pour le papa quand même, parce que tout ça c'est parti de là, et là vous êtes à quelques mètres de réaliser un rêve quand même.
Oui, bon, on y pense de toute manière, comme chacun, comme on pense aussi à nos grands-parents, comme voilà. C'est la vie, c'est voilà. On absorbe tout ça.
Belle aventure humaine.
Parce que c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas assez notifié par rapport à Robert et Harley aussi. Donc, merci. Et puis, on boit, on continue à boire des bières le vendredi. Bière sur bière sur bière.
Et là, aujourd'hui, ça va être jus d'orange. Hein. On ne peut pas faire mieux. Merci de nous avoir fait vivre votre...
Et la pensée au paternel, etc.
Et puis, merci de nous avoir fait vivre cette histoire jusqu'au bout du monde, hein, en Australie.
Ouais. Merci bien.
Merci à toi, du coup.
Ouais, voilà.
Et place à présent au rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi 22 janvier. Politique australienne, la coalition des libéraux et des nationaux s'est scindée suite aux dissensions sur les lois contre les discours haineux. Donald Trump revient sur sa décision d'imposer des taxes à l'Europe à partir de février, saluant un accord sur le Groenland. Et fracture du couple franco-allemand sur fond de blocage de l'accord du Mercosur. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis cet après-midi. Je vous laisse en compagnie de Abou avec le morceau Tal. Bon après-midi, à très bientôt.
Au-delà de l'oseille et du temps, j'ai donné beaucoup trop de mon énergie.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.